Renault.
As-tu entendu la dernière nouvelle?
L'Insider Hockey. Aux quatre coins de la ligue, tout le monde lui parle. Puis il fait parler tout le monde.
The one, the only.
L'Insider Hockey. Renaud Lavoie.
Salut Renaud.
Hey Ren, comment ça va?
Salut Ren.
Ça va très bien. Débarqué fraîchement de l'avion à Toronto. Dans moins d'une heure, un autre vol pour Montréal. Et la journée repart, messieurs.
Tu réussis à dormir un peu?
Oui. Des petites cellules magiques qui existent. Je sais pas si Gilbert prenait ça des fois.
Non.
Après un match d'hockey.
Pour dormir? Hein? Non.
Oui.
Non, jamais pris ça. Pas besoin de ça. Non. Il y en avait qui en prenaient en tabarouette, par exemple. Moi, j'étais genre pas de trouble. Là.
Parce que toi, les gens voient juste le beau côté de ton travail. Hey, ils visitent toutes les arénas, vont tout le temps des games
de hockey. Lève de bonheur.
Mais ça représente quand même des sacrifices d'être dans l'avion la nuit, puis let's go, les communes, puis on se promène, puis boum, boum, boum.
Ah oui, c'est complètement fou comme un rythme de vie. Puis surtout en séries éliminatoires, où là, je te dirais pas, tu sais, c'est pas de façon quotidienne que tu vas prendre un vol de nuit, mais. Quand tu es à Edmonton, puisque tu veux te sauver de cette ville-là le plus rapidement possible, les vols de nuit sont essentiels.
Oui,
essentiels à la santé mentale, je dirais.
Bon, Renaud, tu nous as tout titillé, là. Il y a un entraîneur de la LNH qui pourrait permettre à son équipe de tirer un joueur très important. De qui tu parles?
Bon, parce qu'hier, justement, j'étais toujours à Vegas au Media Player Tour. Tournée médiatique des meilleurs joueurs de la Ligue. Puis là, on discute avec des agents, discute avec des employés d'équipe aussi. Puis, on parlait de Sidney Crosby, on parlait de Connor McDavid. C'est Connor McDavid, cette possibilité que les Maple Leafs aient non seulement un intérêt, mais que Connor, que l'équipe soit sur sa liste. On parlait des Rangers de New York aussi. Sidney Crosby, pas besoin de repasser à travers, évidemment, les équipes intéressées, comme les Québec, pas intéressées, mais où Sidney pourrait jouer. Ouais, les Canadiens, l'Avalanche ou les Kings. Puis là, à partir de ce moment-là, dans les discussions, on m'a amené une autre équipe. Et on m'a amené le Lightning de Tampa Bay. Puis j'ai dit, pourquoi le Lightning de Tampa Bay? Qu'est-ce que le Lightning vient faire dans tout ça?
Côtoyer John Cooper? Intéressant.
Exactement. Là, on m'a regardé, ben voyons, Renaud, John Cooper. J'ai dit, John Cooper? Là, ils m'ont dit, ben, il a gagné la Coupe cette année. C'est lui le coach d'équipe Canada. Il a coaché l'an dernier à la confrontation des quatre nations. Puis là, on se retrouve dans une situation où ces joueurs-là vont aller jouer à Milan aux Jeux olympiques en Italie au mois de février, puis ils vont passer encore plus de temps avec ces gars-là. Et oui, ça pourrait avoir un impact à quelque part quand c'est le temps d'attirer le joueur, de l'amener de ton côté. Est-ce que, justement, ah oui, Coach Cooper, je l'ai connu, ouais, c'est un bon coach, j'ai bien aimé sa façon de nous préparer, de nous parler, etc., etc. Bref, on m'a dit de ne pas écarter une équipe comme le Lightning qui pourrait arriver par en arrière, puis justement aller voler le joueur que d'autres équipes tentent de convoiter. Puis je trouvais ça quand même logique comme situation, surtout que John Cooper, c'est l'entraîneur qui est avec la même équipe depuis le plus longtemps dans la Ligue nationale. Je pense pas que du côté du Lightning, on est sur le point de le congédier non plus. Mm-hmm. Lui, c'est un gars qui est très apprécié de ses joueurs.
Ouais.
Sa façon de communiquer est toujours spéciale, communiquer avec nous, les membres des médias. Un gars qui est toujours de bonne humeur devant nous, peu importe le contexte.
Ouais, puis tu sais, tu parles de John Cooper, mais à ça, tu peux rajouter Braden Point, Anthony Cirelli et Brendan Eagle, qui l'a tous côtoyé aussi aux quatre nations. Fait que ça aussi, ça l'aide pour se faire une tête sur comment ça se passe avec le Lightning.
C'est sûr.
Oui, puis c'est sûr, puis c'est, je dirais même extrêmement important parce que le coach, c'est une chose. Il va te coacher pendant les quatre nations ou pendant les Jeux olympiques. Les joueurs, c'en est une autre. Parce qu'ils se parlent constamment. Hey, comment c'est à Tampa? Comment est-ce qu'il coach? C'est quoi l'ambiance dans le vestiaire? Pensez-vous que vous étiez à Tampa ou vous retournez à la maison? C'est toutes sortes de petites questions comme ça, à gauche puis à droite, qui fait en sorte que tu es capable de bâtir, si tu veux, ton idée de ce que ce serait de jouer un jour pour le Lightning de Tampa Bay. Parce que je suis convaincu que ces gens-là, ces joueurs-là, qui regardent leur situation, peut-être justement se placent mentalement des fois dans un endroit où qu'est-ce que ça serait à Tampa?
Ouais.
Qu'est-ce que ça serait à Montréal? Ça, c'est sûr.
Là, le point là-dedans, je comprends. Là, c'est sûr que d'aller jouer en gougoune, la belle température, les impôts, la possibilité de gagner, c'est attrayant pour Crosby. Mais qu'est-ce qu'il y a d'attrayant là-dedans pour Carl Dubas? parce que le Lightning n'a pas de choix de premier tour en 26 et ni voilà. en 27, a vidé sa banque d'espoir pour faire différentes acquisitions au fur et à mesure des dernières années, ce pourquoi on a connu du succès. Est-ce que Kyle Dubas pourrait trouver son compte dans une potentielle transaction pour Crosby?
Une excellente question. Ou encore, on pourrait rajouter Connor McDavid avec les Oilers d'Edmonton aussi. Mm-hmm. Et c'est une excellente question parce que il y a des équipes, on en a parlé beaucoup là, tout au long de la semaine, qui se préparent, là, veut pas. Là. Les Rangers ont encore le deux choix de première ronde. Il y a une raison pourquoi ils s'assurent de ne pas vouloir échanger ces choix-là. Moi, je répète, au dernier repêchage, on était à Los Angeles, puis c'est circulait dans les corridors. Non, ils vont pas échanger leurs deux choix de première ronde. Pourquoi? Connor McDavid, on veut garder le plus d'outils possible pour justement...
Mais ça va coûter pas mal plus cher que deux choix de première ronde.
Mais c'est pas ça que je dis, Gilbert. Mais c'est quand même des assets, c'est quand même des atouts.
Oh oui,
oui. Mais du côté du Lightning, là où il y a quand même une question qu'il va falloir se poser, c'est que il va falloir aussi que tu donnes des joueurs, d'après moi.
Ben,
parce
c'est
que,
sûr que tu vas donner des joueurs.
Ça. Exact. Mais peu importe quel joueur que ce soit Sidney ou Connor qui sont échangés, tu vas être forcé de donner des joueurs. Mais en réalité, surtout dans le cas de Connor McDavid, l'idéal, ce serait qu'il soit joueur autonome sans compensation le 1er juillet. Et là, tu n'as absolument rien à donner, évidemment, à l'équipe avec laquelle il évoluait avant.
Oui, ça, c'est sûr et certain. Mais tu sais, est-ce que les Oilers vont réellement laisser partir?
Tu pensais pour rien?
McDavid pour rien.
Ils vont tous se faire sacrer de voir.
Les Leafs l'ont fait pour Marner. On a vu cet exode-là il y a quelques années. Malheureusement, il est décédé, mais Johnny Gaudreau avec les Flames. On voit des joueurs quand même de très grand talent au Canada décider de quitter pour d'autres marchés. Mais est-ce que ce serait le cas pour Connor McDavid? J'ose croire que les Oilers, Tony, ils feraient pas ça.
Oui, mais non, écoute, moi je relance, je fais un ricochet vers Renault parce que avec l'augmentation du plafond salarial et tout ça, il y a des équipes qui ont un petit peu plus de marge de manœuvre, mais en même temps, à l'approche de la date limite des transactions, avec le fait qu'on ne puisse pas isoler des joueurs sur une liste des blessés à long terme, ça va peut-être limiter certaines possibilités, mais quand je regarde ça, Renaud, McDavid, Kirill Kaprizov, Quinn Hughes, tu sais, t'as des situations dans la Ligue nationale avec des joueurs vedettes où on ne sait pas là, si l'avenir à court, moyen, long terme va être dans leurs équipes actuelles. On a pimenté la saison pas mal.
Puis l'année passée, on a eu Marner, Shesterkin, Rantanen. Tu sais, c'est vrai qu'on est comme dans un air où est-ce que c'est les gros joueurs qui sont en tête de liste.
Mm-hmm. Oui, puis tu sais, hier, Kirill, on ne l'avait pas mis sur la liste au début de la chronique. On l'a rajouté au courant de la journée. J'ai hâte de voir justement comment ce dossier-là va se régler. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que maintenant, avec cette poussée du plafond salarial, avec le maximum d'argent que les joueurs vont pouvoir obtenir pour, si tu veux, des contrats à long terme, c'est 19,1 millions si on signe une prolongation tout de suite pour les prochaines saisons, le maximum qu'on peut obtenir. Mais ça va augmenter, ça aussi, l'an prochain, là, ça va dépasser. Si tu attends une autre année, ça va monter à 20 millions et plus que tu vas pouvoir signer avec une équipe. Et je pense que ça fait en sorte que, justement, tu as des joueurs, peut-être pas Sidney Crosby, mais tu as peut-être d'autres joueurs qui regardent ces situations-là en disant que c'est extrêmement attrayant pour une fois être un joueur de hockey dans la Ligue nationale parce que les salaires vont vraiment exploser par rapport à ce qu'on a connu, je vous dirais, là, depuis l'arrivée du plafond salarial en 2005-2006.
Exact. Pour les gens qui ne savent pas la règle, la plus grosse pointe de tarte que tu peux aller chercher du plafond salarial, c'est 20% de la masse. Fait que là, 19,1, parce que présentement, ben, on est à 95 millions. C'est la raison pour laquelle qu'on peut aller chercher cet argent-là. Il n'y a pas vraiment de situation plus grosse que celle de Sidney Crosby au moment où on se parle dans la Ligue nationale. Je pense que c'est ça qui retient toute attention. Du moins, c'est comme ça au Québec. Mais si on demande à Renaud, ça te fait-tu penser à une autre situation que tu as déjà vécue? Tu irais avec quoi, Renaud?
Vincent Le Cavalier. Hein? 2009. Je m'en souviens comme si c'était hier. J'étais à Boston, le Canadien qui se préparait à jouer contre les Bruins. Et je rentre dans le corridor du TD Garden. Je vois Roland Melançon qui me regarde avec des gros yeux. Il dit, on est peut-être dans le trouble. Je dis, ah oui, pourquoi? Il dit, il va nous manquer de joueurs pour le match de ce soir. Je dis, ah oui, il va manquer de joueurs. Ben oui, parce qu'il dit, ça se peut qu'il y ait une transaction là, qui va se faire dans les prochaines minutes. On fait les entraînements matinaux. Je reçois un appel d'un dénommé Vincent Le Cavalier qui me dit, c'est fait. j'ai été échangé au Canadien de Montréal.
Ah, sérieux? Ouais, il a pris la peine de t'appeler.
Ben, Vincent et moi, pour connaître, pour savoir, surtout qu'on a une excellente relation qui date justement depuis son arrivée dans la Ligue nationale. Là, il ne peut pas le dire tout de suite, par contre. Parce que là, je veux dire, il est surexcité, là.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Surexcité pour Vincent, surexcité pour le Canadien. Puis moi, personnellement aussi, de me dire, hey, tabarouette, Vincent le Cavalier va jouer pour le Canadien, ça va être complètement fou. Ce qui s'est passé, lui était dans l'Ouest américain. Et il y avait deux propriétaires à l'époque chez le Lightning. Orrin Coulis et Len Barry. Et selon...
Len Barry, l'ancien joueur, hey, ça, là, c'était spécial, ça. Pas à peu près. Là. Ouais.
Et il fallait, Gilbert, que les deux propriétaires approuvent chaque transaction. S'il y en a un des deux qui disait non, à partir de ce moment-là, la transaction tombait. Et il y en a un des deux qui a dit non. Bon, ça, c'était au mois de janvier 2000. Là-dedans, il n'y avait pas beaucoup de joueurs. Il y avait moins de joueurs, mais il y avait Thomas Plekanec qui était dans cette transaction-là. De mémoire...
Je l'ai ici devant moi, Renaud. C'est un article de TVA Sport qui date, là, mais selon les dires de Bob Guéné, Price, Pacioretty, Subban et un premier choix au Lightning contre Vincent Lecavalier.
Oui, mais attends. Ça, c'est la deuxième transaction.
Ah, excuse-moi. OK.
Parce que il y en a eu deux. Ça, c'est... Il y a celle du mois de janvier dont je vous parle. Là, on se retrouve au repêchage de la Ligue nationale. C'est à Montréal. Et là, ça buzz encore en ville. J'arrive sur le parterre du Centre Bell et on me dit, Vincent Lecavalier, ça se peut très bien qu'il soit échangé. N'oubliez pas qui est l'agent de Vincent Lecavalier aussi. C'est Kent Hughes.
Ouais.
Tu comprends? Qui est maintenant directeur général de l'équipe. Et là, à un moment donné, on texte un peu tout le monde, Vincent, Kent, etc., quelques membres de l'organisation, et je vois passer Bob Guéné devant moi sur le parterre. Là, il n'y a pas personne, il devait être, le samedi du repêchage, il devait être 13h l'après-midi maximum. Ça commençait 6h plus tard, le spectacle. Je vois Bob Guéné passer devant moi dans une humeur que je pourrais qualifier de massacrante. Et c'est là où cette transaction-là dont tu viens de parler, avec les noms dont tu viens de parler, a été refusée, cette fois, pas par les propriétaires du Lightning qui avaient approuvé la transaction, mais par le commissaire de la Ligue nationale de hockey, Gary Bettman lui-même, qui avait dit non.
Exact.
Vincent Lecavalier ne sera pas échangé au Canadien de Montréal, il est trop important pour le Lightning.
C'est ça, sous prétexte que ça allait détruire la franchise du Lightning.
Ben, Simonac, c'est le Canadien de Montréal qui aurait été détruit qu'une transaction comme ça.
Hein? Pas à peu près.
Je me trompe pas, Renaud, il pensait d'un point de vue marketing que de retirer le Cavalier, ça mettait la franchise à terre.
Tu pensais, les gars que t'as nommés, Pacioretty, Price, Subban.
Puis un premier choix.
Hey, voyons donc, surtout en 2009, c'est Vincent Lecavalier était très bon, une très très belle carrière, mais...
En 2009, il venait de faire 67 points en 60.
C'est ça. Mais tu sais, ça commençait à être un peu sur le déclin, là.
Ouais.
Et c'est bon, on l'aurait regretté, puis pas à peu près.
Mais quelle histoire fascinante, Renaud.
ça c'en est toute une. Puis ce qui m'amuse un peu d'une certaine façon, c'est qu'il y a quand même des gens qui l'ont vécu, ça, de l'intérieur, qui sont encore présents aujourd'hui, puis qui travaillent pour les Canadiens en Kent Hughes, puis Vincent Lecavalier, qui ont une bonne idée de comment les choses se sont passées. Là, tu ne penses pas qu'on doit comparer la situation aujourd'hui. On n'est pas au même endroit du tout, là. Je ne pense pas que le Canadien a reçu un appel disant, écoutez, ça va être fait dans les prochains jours, préparez-vous, là.
Non.
On va vous rappeler, mais Sidney Crosby s'en vient. C'est pas ça du tout, présentement. On est loin de ça. Mais peut-être que quelque part, cet hiver, il va y avoir ce petit retour de bouillonnement, et souhaitons que cette fois, bien, la transaction sera approuvé par la Ligue nationale et complété par les Canadiens.
Ouais, mais tu veux-tu... Tu sais, parce que pour obtenir Crosby, les gars, là, ça coûtera pas deux choix au repêchage, puis tu vas vider ton club aussi, là. Moi, je pense qu'en 2009, là, si tu regardes Crosby, oui, il est plus vieux que Lecavalier en 2009, peut-être, mais qu'est-ce qu'il apporte? Est encore... Moi, je pense que Crosby est meilleur là que Lecavalier était en 2009-2010.
Mais la différence entre les deux situations, Gilbert, selon moi, est la suivante. C'est que maintenant, les directeurs généraux se sont ajustés. Quand il y a une transaction qui est possible, alors que le joueur a une clause de non-mouvement à une seule équipe, si le joueur dit « Moi, je suis échangé à cette équipe-là et aucune autre formation », exemple, Brad Marchand cette année, qui a refusé une transaction à Los Angeles, il a dit non, moi je m'en vais jouer en Floride uniquement. Bien, le retour à ce moment-là n'a pas été aussi gros que s'il y avait une compétition entre plusieurs équipes. Ou,
ouais,
dans le fond, où Brad Marchand avait dit décider entre Edmonton, Los Angeles puis Panthers, arrangez-vous, peu importe, je vais aller jouer là.
Exact.
Maintenant, c'est un petit peu moins comme ça. C'est moins comme ça que ça fonctionne.
C'est fascinant parce que tu sais, tu dis il y a des similitudes entre le cas Le Cavalier et le cas Crosby. Puis moi, tout de suite, la première chose qui m'est venue en tête, le match des Étoiles à Montréal en 2009 et l'ovation que le Centre Bell avait réservée à Vincent Le Cavalier, parce qu'on le savait, gens, Bob Gainey voulait un centre québécois de renom. Tout le monde tripait sur Vincent Le Cavalier. Le Cavalier qui se promène dans le vestiaire, qui regarde les images, qui, le flambeau, puis les grands. Puis, je pense qu'il y avait même eu des rencontres à l'époque là, avec des anciens, puis il voulait faire partie de l'organisation. Puis Crosby, veut pas, la Coupe des Quatre Nations, la foule qui buzzait pour lui, le vestiaire du Canadien. T'sais, je trouve que quand même, les deux cas, il y a des similarités un peu.
Oui, exactement. Puis, pour le Canadien, on parle d'un deuxième joueur de centre qui est absolument important d'obtenir. À l'époque, on voulait aller chercher ce premier joueur de centre-là aussi. Je me rappelle, c'est un autre moment avec Bob Gainey. C'est parce que c'était un peu à la même époque. Et il vient me voir un matin de match. J'arrive tôt au Centre Bell, je le croise dans les corridors et il y a la formation des Bruins de Boston. Et il me dit, les Bruins, Renaud, ont trop de jeunes joueurs de centre. Je dis, OK. Et il dit, il m'en faut un des trois joueurs de centre. Et là, il me pointe Patrice Bergeron. Regardez, Bob, j'ai dit, est-ce que tu vas appeler Peter Chiarelli, qui était le directeur général? Il dit oui. Je dis, est-ce qu'il a répondu à ton appel? Il dit, je lui ai parlé, mais il n'a pas répondu du tout à la possibilité que Patrice se joigne au Canadien de Montréal.
Ouais, je peux comprendre.
Hey, Renaud, il faut absolument que tu fasses quelque chose avec l'histoire de Vincent Le Cavalier. Je connais ta proximité avec lui. Tu sais, honnêtement, là, l'histoire à Vincent là, est incroyable. Ça mérite d'être couché sur papier quelque part un jour. Là.
Non, c'est là, effectivement, je ne donne pas tous les détails de cette aventure parce qu'effectivement, qu'un jour, ce serait un livre extraordinaire de voir les hauts et les bas de tout ce dossier-là. Et quand je vous dis que Vincent, là, c'était fait, quand tu reçois l'appel, puis Vincent me disait même, je m'en rappelle comme si c'était hier, c'était dans le lobby de l'hôtel du Westin à Boston. Il me dit, c'est quand le prochain match des Canadiens? J'ai dit, c'est à la maison face aux Prédateurs de Nashville. Et réponse, il m'avait dit, tabarouette, j'aime ça, j'adore jouer contre les Prédateurs de Nashville.
Pour les gens qui ne savent pas à quel point vous êtes proches, là, puis là, je ne veux pas scraper des punches de ton futur livre, là, mais quand il a été transigé des Flyers aux Kings, tu l'as su avant tout le monde.
Tu avais eu
l'information avant tout le monde, puis tu m'avais même déjà dit, ça a pris deux jours avant que ça sorte public. Mais toi, tu le savais parce que Vincent, je pense que c'était dans un taxi, je me trompe-tu?
Peut-être, je sais pas trop qu'est-ce qui s'était passé exactement, mais c'est sûr que la proximité avec les joueurs à l'époque était, je dirais, meilleure qu'aujourd'hui. Mais ça, en même temps, tout est une question de contexte et de relation. Vincent Le Cavalier, c'est d'une manière ou d'une autre, les gens qui le connaissent savent très bien que c'est un gentleman hors pair. Tu sais, quand son père lui disait « Tu vas porter le numéro 4 pour Jean Béliveau », ben pour moi, Vincent Le Cavalier, c'est le Jean Béliveau de hockey moderne d'une certaine façon qu'on a connu.
Intéressant, Renaud, c'est très bon. Toujours le fun de replonger dans nos souvenirs. Bon vol vers Montréal, puis va te coucher dans ton lit, je pense que ça va te faire du bien.
Je sais pas si mort le temps aujourd'hui, mais je vais essayer.
OK, salut, c'est bon. Ben. Salut, à demain.
À demain.
Bye-bye. Bonne
je veux rajouter un petit grain de sel sur Vincent Le Cavalier parce que moi, le premier contact que j'ai eu avec Vincent, c'était en 1996, quand il a été repêché dans la LHJMQ.
Ah, ça aussi, c'est toute une histoire.
Le repêchage avait lieu à Victoriaville cette année-là, c'était mon patelin. Et puis Vincent était caché dans une vanne de l'organisation de l'Océanique de Rimouski. Il ne devait pas être présent au repêchage à Victo. On l'avait sorti pour le quatrième choix au total. Il était rentré sous toute surprise là, à l'intérieur du building pour être annoncé comme choix de première ronde de l'Océanique. Et l'histoire s'est écrite comme ça pour Vincent.
Hey, ça, c'était toute une histoire.
96.
C'est pas parce que 5 ans, j'étais là, physiquement là. Je m'en souviens pas vraiment, mais j'étais là. Enfin, oui, je m'en souviens. je porte encore une cicatrice de cette journée-là.
Attends.
Oui, parce que j'étais allé là avec mon père puis un ami de la famille, Martin Bibault, que je salue, puis son beau-fils, qui était un ami à moi. On est allé jouer au hockey après le repêchage, parce que c'est long. Le repêchage avait eu dans la même journée. On avait assisté à la première ronde. Et après, il était venu jouer chez moi. On jouait au hockey dans la rue. J'étais passé en arrière de lui. Puis il m'avait fendu l'arcade. Ben, pas l'arcade, mais le sourcil. Avec un coup de bâton. Puis j'avais fini la journée à l'hôpital pour des points de suture.
Sérieux,
non, ouais, la même journée que le repêchage à Vincent Le Cavalier.
Ça avait été une coupure très profonde.
Très profonde. Ouais, mais quelle histoire, pareil. Je faisais Vincent Le Cavalier.
Caché d'une vanne, ouais. Ça, c'était cœur.
Hein. C'est sûr que la comparaison semble énorme avec Jean Béliveau, mais Jean Béliveau a joué pour le Canadien. Vincent n'a jamais joué pour le Canadien.
Non.
Mais c'est vrai que dans l'époque moderne, ça a été un grand joueur québécois, là, Vincent.
Ouais. Ça s'est mal fini.
Oui, ça s'est fait
trimballer un petit peu. Ouais. Il a été racheté.
Exact. Mais si on revient sur les belles années du Lightning,
bon.
Ça a été un joueur dominant.
Écoute, mais
gamer.
Martin Saint-Louis, Brad Richards, Dan Boyle, tu sais, ça a été des belles années pour Tampa.
Ruslan Fedotenko.
Ouais, mais Vincent, très très bon ambassadeur pour le hockey québécois. Puis regarde, tu vois, hein, c'était pas mûr pour arriver pour Vincent comme joueur. Ça a été mûr pour arriver comme gestionnaire dans l'organisation du Canadien aujourd'hui.
Et je suis convaincu qu'il fait un excellent boulot. En tout cas, quand il est allé virer en Russie l'année passée, ça t'amène une prestance.
Absolument.
De voir Vincent Le Cavalier qui débat